France Culture. Les nuits de France Culture, jusqu'à 6h du matin. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique.
Le poète Robert Desnos est mort du typhus le 8 juin 1945 au camp de concentration de Theresienstadt. Plus qu'une opposition au nazisme, Desnos, par son mode de vie, par ses goûts sexuels et esthétiques, par sa langue, donc par ses textes, en est l'absolu contrepoison. Car lire Desnos libère. Car lire Desnos ouvre sur des mondes inconnus où l'imagination et la langue qui lui permet d'agir sont déliés absolument. Dans cette émission, qui nous permet de prendre un contact vivant avec lui et qui date de 1958, interviennent nombre de ses amis, mais également Yuki, la femme aimée.
Soirée de Paris. La radiodiffusion télévision française présente « À ciel perdu » en hommage à Robert Desnos, une émission de Jean Marcelot et Suzanne Robin, avec les témoignages de Yuki Desnos, Roland Gaget, Henri Janson, Pierre Avard, Gaston Gallimard, Henri Monnier, Jean-Louis Barrault, Madeleine Renaud, les voix de Robert Desnos et Charles Trenet, avec la participation de Jean Arnaud, Marie-Nicole, Alain Chaudier, Lise Langeais, Didier Boël. Les portes de Robert Desnos, mises en musique par Paulette Zevaco, seront chantées en première audition par Guy Revaldi, accompagné par Jimmy Walter. Réalisation Guy Delaunay. Jean Cocteau, de l'Académie française, vous parle.
17 années de brouille incompréhensible et sur laquelle, réveillé en sursaut, nous ne pûmes jamais comprendre d'où elle vint, voilà l'étrange recul qui nous jeta si violemment l'un vers l'autre. Peut-être ces sortes d'ennemis que nous avons été deviennent des amis véritables, apprenant à se mesurer mieux que par une entente vite prise dans la colle des habitudes. Très souvent, pendant les longues rencontres de cette amitié qui mettait les bouchées doubles, Robert Desnos et moi, nous nous sommes rappelés des lieux où cette haine mystérieuse nous réservait des surprises et des fuites comme celle d'une tragédie à figure de vaudeville. Paris, Villefranche, hôtel où les couloirs devenaient ceux d'un labyrinthe dont le minotaure était cette haine que des malentendus avaient fait naître et qui nous intriguait et qui nous effrayait comme Thésée, le monstre de Crète. Brusquement un jour, cette âme noble, que la poésie habitait en parente, sans se donner la peine de faire de l'esbrouf ou du charme, décida que le fruit amer était mûr et qu'il fallait secouer l'arbre. À vrai dire, et il en va presque de même pour Paul-Éloire, je ne sais plus exactement la minute où le masque tomba, où le fruit tomba, où ce fruit devint une belle reine Claude saignant de l'or, où le vrai visage nu s'éclaira d'un sourire, mais il ne me reste de cette longue malchance que le souvenir d'un nœud du cœur, d'une entente immédiate, foudroyante, et d'une amitié dont je porterai toujours le deuil. Il me semble, si je fouille ma nuit, que c'est le bar de l'hôtel du Louvre qui fut le théâtre de ce merveilleux spectacle, deux ennemis mortels qui se donnent la collade et lavent joyeusement des linges sales qui deviennent des anges et s'envolent. Robert Desnos était un poète, il y en a peu. Il y a beaucoup d'esprits qui rêvent de poésie et s'imaginent que la poésie consiste à dire certaines choses d'une certaine manière. Seulement, Desnos savait que la poésie n'est pas seulement une allure, mais un organisme royal et solitaire, une île déserte, sans touristes, et que ne jonche ni papier gras, ni boîte de conserve. Une espèce de maladie contagieuse, et bénit ceux qui l'attrapent et en meurent. Desnos en est mort, et tendrement, respectueusement, je le salue.
À ciel perdu.
Il était une feuille avec ses lignes, lignes de vie, lignes de chance, lignes de cœur. Il était une branche au bout de la feuille, lignes fourchues, signes de vie,
signes de chance, signes de cœur.
Il était un arbre au bout de la branche, un arbre digne de vie,
digne de chance, digne de cœur.
Cœur gravé, percé, transpercé, un arbre que nul jamais ne vit. Il était des racines au bout de l'arbre. Racines.
Vigne de vie, vigne de chance, vigne de cœur.
Au bout des racines, il était la terre. La terre tout court. La terre toute ronde. La terre toute seule au travers du ciel. La terre.
Et sur cette terre vivait Robert Desnos.
À ciel perdu.
juin 1945.
Le journalisme,
la radio,
la chanson,
le cinématographe,
père de leur poète.
Il est parti comme on meurt un matin. Ce ne sont pas les lieux qui feront la distance, mais ces mots, je l'aimais, murmurés au lointain.
Écoutez, faites silence, écoutez, faites silence.
Appelle la sirène et l'étoile à grand cri. Si tu ne peux dormir, bouche close et mains jointes, ainsi qu'un chevalier de pierre qui sourit à voir le ciel sans Dieu et les enfers sans plainte.
Écoutez, faites silence, écoutez, faites silence.
Mais avant de laisser Yuki nous parler de Robert Desnos, disons tout de suite, qui est Yuki?
Je n'en vois pas l'utilité.
Au contraire, les auditeurs sont curieux. Et il est bon qu'ils sachent, qu'ils soient à même d'apprécier que par votre vie, votre franchise, vous êtes habilité pour situer Robert Desnos dans son cadre.
Oui.
Si Robert Desnos a fait de vous sa compagne, c'est qu'il avait trouvé en vous le climat correspondant au sien.
Nous avions en effet beaucoup de points communs. Les mêmes aspirations, les mêmes révoltes de jeunesse.
C'est-à-dire?
Le goût de l'évasion, du bizarre, du non conventionnel, le goût de l'inconnu, du difficile.
Le culte de la beauté, et plus profondément encore enraciné en vous deux, le culte de l'amitié.
Et l'amour de la vie.
Celle de Robert Desnos fut trop courte.
Robert Desnos est né le 4 juillet 1900 dans la maison qui fait le coin des rues Saint-Martin et des Lombards, donc au quartier Saint-Méry, dont il a chanté les charmes. Son père, Lucien Desnos, d'origine normande, né à Saint-Martin-l'Aiguillon, le gars Desnos, comme on l'appelait, s'aperçut bien vite que Saint-Martin-l'Aiguillon était une toute petite commune, bien trop petite pour l'activité dont il se sentait capable. Et il quitta son village avec de la paille dans ses sabots, un beau bourgeron tout neuf, la bénédiction familiale, peu d'écus en poche, mais le cœur et le corps solides et de l'enthousiasme à en revendre. Il acheta quelques volailles aux halles et ne tarda pas à parcourir les rues de Paris en vendant des beaux poulets, des pigeons, de la pintade, des perdreaux, du faisan, des oies, suivant les saisons.
En somme, il était marchand de quatre saisons.
Pas tout à fait. À cette époque-là, que décrit si bien Marcel Proust, ces petits revendeurs n'avaient pas tellement besoin d'une voiture. Ils se contentaient souvent d'un ou deux paniers et s'annonçaient en chantant leurs marchandises. Volaille tendre, tendre volaille, par exemple.
Et ensuite, qu'advint-il du beau et fringant Lucien Desnos?
Il devint commis chez un grand marchand de volaille, M. Guillet, dont il épousa bien vite la fille. Celle-ci était née à Paris. Elle n'était pas très jolie, mais avait d'immenses qualités de cœur et de sensibilité, dont certainement hérita Robert. Et aussi cet amour du vieux Paris.
Dont nous reparlerons tout à l'heure.
Oui. Avec la dot de sa femme et ses petites économies, il acheta une rôtisserie rue de Cléry. Dans cette rôtisserie, le père de Robert Desnos recevait toute la nuit les journalistes les plus connus, lesquels venaient déguster, outre les poulets rôtis à la broche, certaines spécialités, dont les alouettes désossées et farcies de foie gras.
Eh bien.
Bref, ce fut dans cette ambiance heureuse autant que chaleureuse que naquit Robert Desnos.
Il était fils unique?
Non, il avait une sœur aînée, Lucienne. Son enfance fut couvée par deux femmes, sa mère et sa sœur. Et ses yeux émerveillés découvrirent un univers actif, travailleur, et un nid tiède, plein de bonne senteur, un havre de grâce, une sécurité.
Oui, mais vous ne nous parlez pas de l'œuvre de Robert Desnos dans tout cela.
Attendez, j'y arrive. Je voulais seulement vous expliquer le climat dans lequel a grandi ce poète. Ce mélange de commerce et d'art, cette paysannerie et cette cité parisienne, cet étrange kaléidoscope qui l'a profondément marqué.
Était-il un enfant particulièrement doué?
Oui, il fut un très bon élève. J'ai conservé certains de ses prix, prix d'excellence, prix d'honneur. Il étudiait volontiers et avait une très grande facilité. Après l'école communale de la rue des Archives, Lucien Desnos, qui de rôtisseur était devenu mandataire au hall, envoya son fils à l'école Turgot. Là aussi, il fut très brillant.
À l'école Turgot, il était déjà poète, n'est-ce pas, Roland Gaget?
Oui, Robert Desnos était né poète. La poésie, il l'avait comme dans la peau. Il s'y est donné tout de suite sans savoir ce qu'il en adviendrait. Dans la revue que nous avions faite à Turgot, et puis ensuite dans la Tribune des Jeunes, il n'y publia que des poèmes. Il me souvient d'une strophe de l'un de ceux-ci, qui fut d'ailleurs censurée, car Robert était déjà non-conformiste. La voici.
Casqués du haut mais cuirassés, s'en sont allés les gens de guerre. Les chemins creux sont défoncés, où nous cachions nos amours printanières.
C'est à l'époque où nous avions inventé le télégraphe.
C'est-à-dire?
Nous étions installés sur de longs bahuts à pupitres par rangées de cinq. À chaque bout, nous avions fixé une bobine sur laquelle tournait un fil qui avait des boucles. On glissait un mot dans une boucle et on éternuait pour indiquer qu'il y avait une communication. Alors, on tirait sur le fil pour amener la correspondance à son destinataire.
Et les professeurs ne vous ont jamais surpris?
Non, Robert aimait le travail bien fait.
Exerçait-il un ascendant sur ses camarades?
Un ascendant est peut-être trop fort, car il ne s'en préoccupait pas. Il était à la fois simple et grand, par le cœur, le désintéressement et l'esprit. Il s'imposait par une originalité que nous ne possédions pas. En quelque sorte, il avait déjà une personnalité.
Avait-il conscience de cette personnalité?
Notre attitude à son égard pouvait lui donner cette conscience, car pour certains d'entre nous, il paraissait baroque.
Baroque?
Oui, parce que différent de nous, et comme je vous l'ai dit, déjà non-conformiste. C'est-à-dire, il avait son point de vue, souvent très loin du nôtre, et il le défendait avec passion.
avec une certaine attitude d'aristocrate voyou à la barbe dorée vieillie. Il lui arrivait de soutenir, par plaisir, le plus invraisemblable paradoxe. Un peu par mépris du vulgaire, contre l'esprit moutonnier, c'était déjà l'enfant terrible.
Qu'entendez-vous par enfant terrible ?
Desnos à Durgo aimait à faire des blagues, lancer des mots. Il savait d'ailleurs prendre ses responsabilités, avec même une sorte d'orgueil. Car il était un peu orgueilleux, mais sans aucune vanité. C'était chez lui une attitude et comme une réaction contre la laideur qu'il détestait profondément. On le voyait comme drapé dans une cape anti-bourgeoise.
Anti-bourgeoise ?
Oui, mais pas sur le plan matériel. Robert était trop désintéressé. Il a toujours eu le plus souverain mépris de l'argent. Son anti-bourgeoisisme s'exerçait contre l'étroitesse d'esprit de certains petits bourgeois comme de certains grands. Ce n'était pas la fortune qui le choquait, il y était étranger. Mais c'était la bêtise. En face de celle-ci, il éprouvait le besoin de scandaliser. Il aurait volontiers cassé une vitre.
Par anti-bourgeoisisme ?
Non, plutôt à cause de ce culte qu'il avait de la beauté. Et comme pour venger celle-ci, des outrages de la bêtise.
N'est-ce pas cela qui devait le conduire vers le surréalisme ?
Sans doute. Il est probable qu'au début, c'est-à-dire vers 1919, il a été attiré par la possibilité qu'il voyait d'échapper au conventionnel, au vulgaire, à l'éternel ressassement des formules, des mêmes attitudes. C'est d'ailleurs en cela qu'il nous dépassait. Il allait beaucoup plus loin que nous et il voyait déjà des possibilités, des richesses qui nous échappaient à cet âge et que peut-être pour ma part, je ne saisis pas toujours. Mais là, comme partout, Robert s'est donné entièrement avec tout son cœur. En toute chose, il était entier. Il ne se morcelait pas. Il donnait tout ou rien. Je ne lui ai pas connu d'ennemis. Il n'avait d'ailleurs pas de haine pour les individus, mais seulement pour les ridicules ou les laideurs qu'il voyait en eux. Alors il éclatait. Il devenait virulent. Ça faisait un contraste avec le charme qu'il mettait dans l'amitié.
Nous pouvons affirmer qu'il avait le culte de l'amitié.
Oui, jusqu'au paroxysme. Il défendait ses amis avec véhémence. Il n'avait aucune préoccupation du succès, car il était le contraire d'un m'as-tu vu. Mais il aurait éprouvé une peine infinie à la seule pensée que l'on ait pu douter de son amitié. Elle a été toujours le plus splendide des camarades, et je crois que cela tient à ce que seul son idéal le préoccupait et le possédait. Il vivait pour cet idéal et pour ses amis, et il est magnifique qu'il soit ainsi arrivé à avoir une vie à lui. Il a donné beaucoup et partout où il est passé. Robert est un garçon...
Roland Gaget, je vous arrête. Vous venez de dire « c'est un garçon ».
C'est vrai, mais nous parlons de lui, et je le vois toujours. Il est encore pour moi, je le sens près de nous. Lorsqu'un garçon comme Robert a laissé à ses amis, à ceux qu'il aimait, et qu'il aimait aussi, son cœur et son esprit, il est toujours vivant.
À l'école Turgot, là aussi, il fut très brillant. Son penchant pour les mathématiques eût dû logiquement le conduire aux mathématiques supérieures. Seulement ? C'est en préparant son concours d'admission à l'école centrale que Robert Desnos se découvrit une vocation littéraire. Il écrivit en effet plusieurs poèmes dont un seul nous est resté.
Les soldats ont brûlé la ferme et le château, abattu le donjon, la ruine romaine.
Qui, triomphant du temps, de la foudre et de l'eau, d'un long passé, restait une preuve certaine. Leurs débris maintenant détournent le ruisseau. Monument de tristesse et de guerre et de haine.
Les soldats ont brûlé la ferme et le château, abattu le donjon, la ruine romaine.
L'oiseau ne chante plus à l'ombre du rameau. Le cerf ne vient plus boire à la fraîche fontaine. Le lièvre a déserté le sinueux réseau des taillis épineux dont il fit son domaine.
Les soldats ont brûlé la ferme et le château, abattu le donjon, la ruine romaine.
Robert avait fait la connaissance de quelques survivants de la bande à Bonneau. Rirette Maître Jean, Kilbaltitch, là, qui n'était autre que Victor Serge. Et leurs amis, Victor Méric et Henri Janson. On s'imagine aisément l'influence que ces révoltés, ces non-conformistes, plus exactement, eurent sur l'esprit du jeune Desnos. Les réunions avaient lieu le soir au quartier latin et se prolongeaient tard dans la nuit, au grand détriment des études et à la grande colère de Lucien Desnos, lequel ne comprenait pas pourquoi ce brillant mathématicien, cet adolescent patriote, se transformait en octambule et en révolté. Mis en demeure de gagner sa vie et d'agir à sa guise, ou de poursuivre ses études et de rester dans l'ornière, Desnos choisit de lâcher son concours à l'école centrale et d'entrer chez Daras Frère, droguiste en gros de la rue Pavée, en qualité de traducteur de prospectus pharmaceutique. Il les traduisait en 10 langues, dont il ne connaissait aucune, sauf l'anglais.
Ça devait être assez curieux.
C'était pas si mal, grâce au dictionnaire. Et puis, les termes médicaux sont toujours les mêmes, plus ou moins extraits du grec ou du latin. C'était acheter cher sa liberté et chagriner beaucoup sa famille. Mais Robert s'attendait à être mobilisé. N'oubliez pas qu'à cette époque, on avait recruté de très jeunes gens, puisqu'on les appelait les Bluets.
Poésie, où vas-tu te nicher ?
Oui, en effet. Mais en 1918, ce danger fut écarté pour tous ceux de la classe 20, grâce à la victoire et à l'armistice. Robert, entre-temps, rencontra un phénomène entre plusieurs. Il se nommait Georges Elzéar Xavier Aubo de la Haute Chambre, du Limoléon et autres lieux. Portait des bijoux, se disait ancien secrétaire de Huysmans, en tout cas il était très érudit. Présenta Desnos à son ami Jean de Bonnefond, dont Desnos devint le secrétaire, abandonnant ainsi les traductions pharmaceutiques. Aubo de la Haute Chambre lui fit également connaître Benjamin Perret. Ce fait eut une grande importance, puisque c'est par Perret que Robert entra dans le groupe surréaliste. En attendant, Janson lui fit connaître Eugène Merle, personnage extraordinaire, lequel lançait un nouveau journal Ce Soir, qui devint plus tard Paris Soir.
1918, première rencontre, Robert Desnos, Henri Janson.
Oui, c'est en 1917 ou 18 que j'ai connu Robert Desnos. Je l'ai connu au Quartier Latin. Nous étions très pauvres l'un et l'autre. Nous déjeunions quand nous pouvions de sandwich et de café crème. Et nous nous rencontrions au Café de Cluny, à quelques pas, je me souviens, de la table de Raoul Ponchon, qui était une verlaine propre, n'est-ce pas, avec une très jolie lavalière, toujours bien poncée, bien briquée. Nous allions là et nous avions d'étranges admirations littéraires à ce moment-là. On admirait beaucoup un romancier qui s'appelait M.C. Poinceau, qui avait fait je ne sais quel roman, qui s'appelait La Joie des Yeux, je crois. Mais je crois que nous avions en vérité plus d'admiration pour son mobilier que pour son œuvre. Car il nous recevait à Rue Saint-André des Arts dans un intérieur qui nous semblait être le modèle de l'intérieur de l'homme de lettres, avec la panoplie complète de l'homme de lettres, vous savez. Et Desnos, à ce moment-là, nous avons créé des revues. Nous avons créé une revue avec un garçon qui s'appelait Lucien Arécy, qui a fait un bouquin sur Verlaine, je crois, dont Salmon parle dans ses mémoires, d'ailleurs. Et nous avons fait une revue qui s'appelait la revue Les Écrits Libres. Et dans cette revue, Desnos, j'ai publié un des premiers poèmes de Desnos. C'était des vers tout à fait réguliers, c'était un sonnet. Et Desnos, à cette époque-là, était patriote. Moi aussi, nous étions jeunes.
Oui.
N'est-ce pas? Et je me souviens d'un sonnet qui commençait par ces vers. Il s'agissait naturellement des méchants Allemands. Ils ont brûlé la ferme et détruit le château. Et dans les années qui ont suivi, je n'ai jamais perdu Desnos de vue. Nous nous sommes toujours rencontrés, quelques fois tous les jours, d'autres fois de mois en mois. Ça dépendait de nos occupations, n'est-ce pas, et de la vie que nous menions. Mais chaque fois que j'avais une discussion avec Desnos devant des amis, je pointais mon index vers son nez. Je lui disais « Ah, Robert, tais-toi ! Ils ont détruit la ferme et brûlé le château. Arrête !» me disait-il, « tu as raison. » Mais s'il m'avait dit « continue », j'en aurais été bien incapable, car c'est le seul vers que j'ai retenu de ce sonnet qui lui faisait honte. Et alors après, bien entendu, j'ai retrouvé Desnos dans les journaux, à Paris Soir avec Merle, où il ne collaborait pas d'ailleurs à Paris Soir. Il était caissier, c'était un métier qui lui allait très bien, car la caisse était toujours vide. Par conséquent, personne n'était payé. C'est vous dire que son travail n'était pas...
Il n'y avait aucun risque.
Il n'y avait aucun risque. Il passait la plupart du temps au CERTA, où il rencontrait à ce moment-là, n'est-ce pas, les premiers éléments du groupe surréaliste, c'est-à-dire Benjamin Perret, André Breton, etc. Mais Desnos était un garçon d'une très grande fidélité, et il avait tout à fait les pieds sur la terre, vous savez, d'autres parleront du poète, n'est-ce pas? C'était assurément un très grand poète, et c'était un garçon que je vous dis qui avait les pieds sur la terre et le sens des réalités. Il était très précis, beaucoup plus précis que des comptables de mes amis ou que de gens qui dirigent de grandes affaires. Ainsi, par exemple, pendant l'occupation, il était dans un petit village et il voulait que j'aille le retrouver. Et il écrit à ma femme la lettre, cette lettre-là, vous verrez comme tout ça est complet au point de vue des détails, c'est assez rigolo. Ma chère Claude, d'ici on ne peut ni téléphoner ni télégraphier. Si vous pouvez téléphoner, ce que j'ignore, appelez-nous au 50 à Litry, Calvados, entre 14h et 15h. Oui, on peut trouver un coin pour Henri. Premièrement, repas très bien à 35 francs.
C'était pas très cher.
Hors d'œuvre, viande, légumes, dessert, cidre, plus le vin, le café, le calvados, ses apéros, dans un restaurant. Deuxièmement, le logis. Très médiocre à notre hôtel, d'ailleurs. Éloigné du restaurant de 5 à 600 mètres. Ou mieux, logé chez l'habitant, nous avons retenu à tout hasard une chambre pour lui, proche du restaurant. Il faudrait que nous donnions l'acceptation ou le refus définitif au plus tard jeudi. Si elle ne vous convenait pas, on pourrait en trouver assez facilement une autre, le village quelconque, sans autre attraction qu'un marché une fois par semaine et 2 douzaines de bistrots. La campagne est belle, une forêt très correcte à 2 kilomètres. On prend le matin le train à Saint-Lazare, 8h50, et aux environs de 10h. On descend au choix à Caen ou à Bayeux, où l'on déjeune. Et l'on prend sur le coup de 5h du soir un omnibus qui met à Litry, gare du Mollet à Litry, vers 6h30 du soir. Je n'ai jamais rencontré quelqu'un de plus précis dans ma vie. Quand j'étais en prison, j'étais arrêté comme tout le monde, n'est-ce pas, pendant l'occupation. Et je dois dire qu'à ce moment-là, Desnos non seulement n'a pas quitté ma femme, mais il m'apportait tout le temps des colis, des livres, du saucisson, du jambon. Enfin, c'était un ami parfait et je pense très souvent à lui. La dernière fois que je l'ai vu, je me souviens, il est venu me voir et il avait peur d'être arrêté. Je lui ai dit, écoute Robert, moi je suis sorti de prison, je vais te dire une chose, si les Allemands viennent chez toi, fous le camp par l'escalier de service, fais n'importe quoi, mais n'essaie pas de discuter. N'est-ce pas? Tu seras piqué et on ne te reverra pas. Il m'a dit, mais tu penses bien. Et quand les Allemands sont venus, il les a reçus persuadés qu'ils s'en tireraient. N'est-ce pas? Et alors, je dois vous dire une chose, enfin, pour finir sur une note qui l'amuserait, n'est-ce pas? Desnos n'était pas croyant, il était athée, il l'avait écrit dans un article qu'il avait publié d'ailleurs en 1942. Il avait expliqué pourquoi il ne croyait pas en Dieu. Et lorsqu'on a ramené ses cendres, Yuki a fait dire une messe à Saint-Germain-des-Prés, où tous ses amis se sont retrouvés. En sortant de la messe, nous sommes allés prendre un verre aux Deux Magots, avec Galtier Boissière, je me souviens. Et à ce moment-là, j'ai dit à Yuki, mais enfin, quelle idée as-tu de faire dire une messe à Saint-Germain-des-Prés pour le repos de l'âme de Robert, qui était un croyant? Et Yuki m'a répondu, mais écoute-moi mon vieux, c'est tout à fait simple, tu comprends? Robert avait beaucoup d'amis, je pouvais pas tous les recevoir à la maison, c'est trop petit. Les Deux Magots, c'est pas assez grand non plus. Alors Saint-Germain-des-Prés, ça a la dimension voulue pour une réception de cet ordre. Voilà pourquoi on a dit une messe pour le repos de l'âme de Desnos.
Et en dehors de ses activités, qu'écrivait Robert Desnos?
Il écrivit en 1919, donc à 19 ans, Le phare des Argonautes et L'ode à Coco. Poème publié dans Corps et Biens à la Nouvelle Revue Française. Dans l'ode à Coco, vous avez...
Oh, le beau collier mamie, que ses yeux en ribambelle. Oh, le beau collier mamie, que ses têtes sans cervelle.
Ces poèmes furent édités tout de suite?
Non, seulement en 1930. Mais en 1920, il fit son service militaire. C'est ainsi qu'il connut Casablanca, Fès surtout, dont il parlait avec amour. Il adorait le Maroc, s'y plaisait beaucoup, s'étant adapté tout de suite à la vie du bled.
Ainsi, cet anarchiste devint un très bon militaire.
Oui, dès qu'il eut quitté la caserne. N'oubliez pas qu'il y avait pour lui la découverte du Maroc. Et puis il n'était pas isolé, il entretenait une correspondance suivie avec Jean de Bonnefond, de la Haute Chambre, Louis de Gonzac-Frick, Henri Barbus, Fernand de Meur, lequel dirigeait 2 revues d'avant-garde, le Trait d'Union et les 10 modernes. Auquel Desnos avait collaboré. Il vivait en pleine exaltation poétique et héroïque, car il a toujours été brave. Seulement, comme il me l'a dit, je n'ai rencontré là-bas que des amis marocains. Je n'ai eu affaire à aucun ennemi.
Il revint donc chargé de gloire et d'honneur.
Plutôt chargé de souvenirs.
C'est alors que Robert Desnos
découvre le café Certa, passage de l'opéra, café où se réunissaient les dadaïstes.
N'est-ce pas là qu'il fit la connaissance d'André Breton?
Exactement. Et ce fut Benjamin Perret qui fit les présentations. Tout cela était très grave. Robert fut tout de suite conquis, corps et âme. Quant au bien, il n'en avait pas. Sauf son génie, mais cela fait partie de l'âme, je crois.
Oh, certainement. Et le surréalisme lui a permis de développer son génie. Suivons maintenant l'œuvre de Robert, voulez-vous?
Oui, voilà. En 1924, Deuil pour deuil. En 1926, c'est les bottes de cet lieu, cette phrase « Je me vois », quatre fortes d'André Masson. Puis, se succède une grande quantité de livres maintenant épuisés. Mais on peut se faire une idée approximative de l'heure de Desnos en achetant Domaine public. Paru à la Nouvelle Revue Française, avec une préface de Berthelet.
Et dans les écoles, les enfants apprennent les chants de fleurs et les chants de fables.
Le zèbre cheval des ténèbres lève le pied, ferme les yeux et fait résonner ses vertèbres en hennissant d'un air joyeux. Au clair soleil de Barbarie, il sort alors de l'écurie et va brouter dans la prairie les herbes de sorcellerie. Mais la prison sur son pelage a laissé l'ombre du grillage. Une fourmi de 18 mètres, avec un chapeau sur la tête, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Une fourmi traînant un char plein de pingouins et de canards, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Une fourmi parlant français, parlant latin et javanais, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Et pourquoi pas ?
Et puis ce fut la suite, trop connue hélas.
Oui, après la séparation d'Avec les surréalistes, séparation purement littéraire mais non sentimentale, car Robert a toujours gardé dans son cœur le souvenir de ses amis de combat intellectuels.
Il me semble qu'au-delà du surréalisme, il y a quelque chose de très mystérieux à réduire. Au-delà de l'automatisme, il y a le délibéré. Au-delà de la poésie, il y a le poème. Au-delà de la poésie subie, il y a la poésie imposée. Au-delà de la poésie libre, il y a le poète libre.
Ce furent des jours heureux. Notre rencontre, notre union.
La fleur des Alpes disait au coquillage.
Tu luis.
Le coquillage disait à la mer.
Tu résonnes.
La mer disait au bateau.
Tu trembles.
Le bateau disait au feu.
Tu brilles.
Le feu me disait.
Je brille moins que ses yeux.
Le bateau me disait.
Je tremble moins que ton cœur quand elle paraît.
La mer me disait
« Je résonne moins que ton nom en mon cœur. »
Le coquillage me disait
« Je luis moins que le phosphore du désir dans ton rêve creux. »
La fleur des Alpes me disait
« Elle est belle. »
Je disais « Elle est belle. Elle est belle. Elle est émouvante. »
Notre union, notre vie rue Mazarine, l'aisance matérielle, de nombreux amis, le travail de Desnos pour le Poste parisien, la publicité radiophonique...
Toute vraie maman n'a qu'un souci, c'est la santé de ses chers petits. Dans ce but, elle les nourrit. À la bonne margarine, a dit la bonne, bonne margarine a dit. Voilà pour les petits, la source de vitamines. Oui, oui, c'est moi qui vous le dis. La margarine a dit, leur donnera joyeuse mine. Tous vos enfants seront grands, bien portants, grâce aux merveilleuses vitamines. Vitamine A et vitamine D que fournit la margarine a dit. Bonne, bonne margarine a dit. À tous grands et petits, donne la santé et la vie.
Ces émissions au Poste parisien. Cet extrait de l'une d'entre elles, La clé des songes, nous restitue sa voix.
Alors nous nous excusons de ne pas pouvoir répondre à tout le monde. Non, nous avons choisi pour les reconstituer ou les expliquer les rêves les plus caractéristiques.
Simplement. Et maintenant, à nous la clé des songes.
Ces travaux poétiques allant de pair. Un nom qui commençait à se répandre, l'aisance matérielle, de nombreux amis.
De nombreux amis parmi lesquels vous étiez, n'est-ce pas Pierre Avard ?
J'ai eu en effet cette chance, et je devrais dire ce privilège, car c'en était un d'être l'ami de Robert Desnos. On peut dire qu'il faisait plus de la moitié du chemin. Il était fidèle, indulgent et généreux. Et surtout, il était simple. Et
tous ses amis le disent, d'ailleurs.
Enfin, il était gai, plein d'humour, en dépit de ses difficultés ou ses soucis. Et c'était encore une forme de son élégance. Si vous le permettez...
Mais bien sûr.
Je voudrais donner, en désordre, comme ils me viennent en mémoire, quelques exemples de sa gentillesse.
Oui.
Pendant l'hiver 31-32, je lui ai prêté un par-dessus. Parce qu'il n'en avait pas, et que j'en avais deux, c'était pas encore l'aisance, comme vous voyez. Il m'a dit, j'accepte, mais je ne veux rien te devoir. Et il m'a donné un chèque.
Il y avait provision.
Oui, 25 ou 26 francs, je crois. J'ai regardé le chèque, il était d'un milliard.
Ça, c'est bien.
Je l'ai toujours.
Vous disiez aussi qu'il était généreux.
Oui. Je me souviens que quelquefois, il m'emmenait dans le grenier qu'habitait rue des Grands Augustins, Jean-Louis Barrault, le fou de théâtre. Et chaque fois, nous apportions quelques victuailles. Robert en achetait ou nous en faisait acheter à peu près trois fois plus qu'il n'en fallait. Jean-Louis ne pense même pas à manger, me disait-il. Et demain, il trouvera ses provisions et ne saura même pas comment elles sont là.
C'est en effet une délicate preuve d'amitié.
Quant à sa simplicité, j'en veux pour preuve que les dédicaces des livres qu'il m'a donnés et que j'ai relus avant de venir ici. Surtout que je retrouve sa merveilleuse modestie. J'espère que tu aimeras ce livre. Ou bien, si ce livre ne te plaît pas, tu auras toujours la ressource de le faire déchirer par tes chats.
Oui, ainsi, même adulte, il ne se prenait pas au sérieux.
Non.
Et toute sa vie, je pense, il fut bohème.
Oui, par force ou par habitude. Mais je lui ai connu de surprenant côté bourgeois. Et je voudrais raconter mon dernier dîner chez lui, parce que c'est assez émouvant pour moi, c'est la dernière fois que je l'ai vu. Il a été arrêté quelques jours plus tard. Yuki m'avait téléphoné et m'avait dit « Veux-tu venir dîner la semaine prochaine, le jour ?» Et elle m'avait insisté en me disant « Sois bien exact, Robert demande que tu sois là à 8h du soir. » C'était doublement surprenant. Un dîner prié chez Desnos, c'était original.
C'était pas habituel.
Et puis à l'heure, ponctuel, c'est encore plus curieux. Ben, je suis arrivé vers 8h du soir. Il y avait, dans la grande table de la salle à manger que tous ses amis ont connue, il y avait installé d'un côté les dames. Il y avait là Claude Marcy, Madame Galtier-Boissière, Yuki. Il y avait Henri Janson, Galtier-Boissière. Et au milieu de la table, président déjà, Robert Desnos. Assez solennel. Il a insisté pour qu'on se mette dans un ordre normal.
Très protocolairement.
Protocolairement. Tout le monde lui a ri au nez et on a dîné comme nous étions installés. Il est venu s'installer à côté de moi par la suite, un Yougoslave ou un Bulgare, je ne sais pas, qui a farci mes poches de tracts contre le moral de l'armée allemande et qui ont peut-être contribué à l'arrestation de Desnos par la suite, car
c'était
il le logeait.
C'était compromettant.
Oui, il le logeait. Et alors, il y avait cette solennité avait une raison. Pour la première fois dans la vie de Robert, il avait un maître d'hôtel. Était particulier. Il s'appelait Eugène. Il avait une bonne trogne d'ivrogne, et je crois que beaucoup de ses amis l'ont connu. Et au début du repas, Eugène est arrivé, a servi le premier plat, le potage peut-être, puis il est tout de suite arrivé avec son verre. Il a dit « je voudrais boire ». Alors Robert l'a servi à boire, et puis le potage n'était pas fini, que Eugène revenait avec son verre encore une fois « je voudrais boire ». Robert lui a donné un peu agacé. Puis 3-4 fois comme ça, et finalement Robert lui a dit « Je ne peux plus tolérer ça, voici une bouteille et allez-vous-en ».
C'était décisif ça au moins.
C'était décisif. Alors tout le monde lui faisait honte parce qu'on ne peut pas refuser du vin rouge quand même dans la maison de Robert. Et nous avons dîné comme ça au milieu d'une espèce de gaieté assez curieuse parce que Robert était quand même très agacé. Et puis le type s'est tenu, Eugène, de plus en plus rubicon, s'est tenu à peu près bien jusqu'à la fin du repas. Mais enfin il a éclaté tout à fait alors qu'on avait un peu de calme et que Robert commençait à se décontracter. Le Eugène en question a passé un entremets, je crois. Je ne sais pas si c'est à Claude Marcy ou à Madame Galtier-Boissière. Et il lui a dit, prenez de cet entremets, madame, ça fond dans la gueule.
Eh bien, ça, au moins, c'est clair.
Robert s'est effondré.
Je comprends ça. Et l'aisance matérielle, de nombreux amis, le bonheur, en somme.
Le bonheur, hélas trop vite effacé. La guerre d'abord. Robert affecté, on ne sait pourquoi, à un régiment de pionniers. La défaite, l'armistice. Il entre avec Henri Janson au journal Aujourd'hui et commence la lutte clandestine dans le réseau Combat. Fait partie d'autres réseaux, tant anglais que français. Et le 22 février 1944, la Gestapo vient arrêter Robert rue Mazarine, l'emmène sans explication, le déporte en Allemagne.
Henri Meunier, vous qui avez été le chef de réseau de Desnos.
Hein ? Moi, chef de réseau, et Desnos dans un réseau, mais vous voulez rigoler. Pourquoi pas chef de gare pendant que vous y êtes ? Non, mais Desnos, tout comme moi, nous étions des gens que le malheur des temps, l'incongruité d'un temps, nous a amenés à nous occuper de choses qui n'auraient pas sollicité notre intérêt dans des périodes normales, mais de là être inscrits à quelque chose, c'était très éloigné de notre idée, de notre propos. À aucun moment, nous n'avons envisagé une chose semblable.
Mais alors, je ne sais pas, moi, c'est d'après ce que l'on nous avait dit.
Ah, bon, c'est fichu de vous. Il est bien évident que la conjoncture était telle, n'est-ce pas, que des gens qui d'ordinaire auraient été à la pêche ou se seraient occupés des petits potins de Paris en sont venus à se mêler de choses qui, normalement, ne les regardaient pas, mais de là à se faire caporaliser, à se faire incorporer dans quoi que ce soit. Mais si Robert était là, il protesterait avec l'indignation que j'en sens moi-même.
Mais alors, les souvenirs que vous avez, alors vous...
Ah, les Desnos... souvenirs que j'ai de Robert Desnos sont ceux d'un garçon qui aimait la liberté au point de mourir pour elle, ce qu'il a fait, mais en aucun cas dans une formation quelconque organisée. C'était aussi loin de lui qu'il aurait pu l'être d'aller vendre du mouron un jour sur les quais. Ça, vraiment, je ne vois pas du tout Robert dans cette attitude. Robert était un esprit libre avant tout, mais c'était... Il invoquait et évoquait constamment la joie de vivre, mais en aucun cas ne se serait fichu dans une affaire semblable.
C'était un bon vivant.
C'était un bon vivant et c'était un esprit libre. Et il poussait le sens de l'irrespect à un point à quoi on atteint difficilement aujourd'hui.
C'est-à-dire
que tout sollicitait à la fois ses sarcasmes, sa bonne humeur et aussi parfois sa mauvaise humeur quand il voyait tout de même le ridicule de l'époque, le ridicule des gens, aller un peu trop loin. Mais il faut surtout ne pas faire de Robert un garçon solennel, car rien n'était plus éloigné de son idée que ça.
Oui, il paraît qu'il aimait beaucoup faire des blagues.
Mais il adorait faire des blagues, c'était un mystificateur né. Je l'ai connu pour ma part fort jeune et je m'en félicite. Et si vous voulez, je vais vous raconter une petite blague que nous avions faite ensemble vers 1920. Je le rencontre un jour, c'était boulevard Rochechouart, et dans ces temps reculés, les jeunes gens que nous étions se baladaient volontiers avec des lavalières, des chapeaux romantiques et des cannes compliquées à la Balzac ou à la Théophile Gautier. Alors nous nous rencontrons, et nous rencontrons aussi mon copain Longepierre, qui malheureusement est mort depuis, et qui était un garçon exceptionnel. C'était un comédien, et il venait de déménager, il s'était installé boulevard Rochechouart, et il avait une concierge parfaitement désagréable, que nous ne connaissions pas parce que nous n'allions le voir que la nuit. Mais généralement, il faut bien le dire, ces rencontres que nous faisions de la concierge, ou du moins de sa voix, puisqu'on l'entendait glapir de sa loge, étaient dénuées de bonne humeur, et nous nous disions, quand on pourra lui faire une bonne blague, on la fera.
Et vous l'avez faite ?
Et nous l'avons faite. C'était un jour de novembre, c'était né en cette saison, et il tombait, c'était à la tombée de la nuit, et il était tombé un tout petit peu de neige, peut-être 3 ou 4 cm de neige. Alors je vois la concierge qui balayait cette neige. Alors je me balade devant sa loge, elle me regarde, ne me connaissant pas, puisqu'elle ne connaissait que ma voix, et avec ma canne, je fais des S, des zigzags dans la neige. Elle me dit, c'est-il que vous auriez perdu quelque chose ? Je dis, oh, c'est pas grand-chose, c'est mon épingle de cravate. Ah oui, quoi, c'est-il comme épingle de cravate ? Oh, je dis, c'est rien. C'est un louis, vous savez, qui est monté sur une épingle. C'est un souvenir de feu mon oncle qui a été tué aux éparges, et puis je continue à faire des spirales avec ma canne. Alors intéressée, elle passe son balai, se baisse et je lui envoie un énorme coup de pied dans le derrière, ce qui n'était pas très galant évidemment, et je fiche le camp. Fort de quoi, j'arrive au petit bistrot d'en face où se tenait Desnos avec deux ou trois autres copains, et nous disons, tiens, il y aurait une bonne blague à faire à un autre camarade, et il s'amène à ce moment-là une bonne tête, un copain qui s'appelait Genève, et qui est aujourd'hui, je crois, industriel dans les Savoies. Et on dit, tiens, on ferait une bonne blague à la concierge de Longepierre. Seulement, elle nous connaît, c'est très embêté. Mais moi, elle ne me connaît pas, qu'est-ce qu'il faut faire ? Je lui dis, ben voilà, tu vas avec ta canne tracer des spirales et tu diras que tu as perdu une épingle de cravate. C'est ton oncle qui te l'a laissé, c'était un louis, ton oncle tu es aux éparges, etc. Ainsi fut-il fait. Et Desnos, je me rappelle, a rigolé ce jour-là. C'était lui, à vrai dire, plus que moi, l'instigateur de la blague.
Oui.
C'est vous dire si nous étions badins et éloignés de tout acte grandiloquent d'héroïsme tricolore. Hein.
Oui, plutôt.
Oui, il semble bien.
Mais il y en a beaucoup d'histoires
comme
ça.
Oh, ben, il y a un tas de blagues. Pendant l'occupation même, je me rappelle un jour, ce n'est d'ailleurs pas très drôle, le père d'un de nos amis était mort. C'était un brave barbu qui présidait le sou des écoles de je ne sais quel arrondissement de Paris. Enfin, on l'a amené incinéré au Père Lachaise, Tout s'est fort bien passé, si ce n'est qu'il faisait un froid de canard, alors que le malheureux était lui en train de griller à 12 degrés, n'est-ce pas ? Et à la sortie, on a amené ce monsieur dans une petite boîte assez ridicule, et de forts discours ont été tenus par d'autres barbus, et à un moment donné, je me mets à rigoler, ce qui était tout à fait impropre. Et alors Destos me dit, mais qu'est-ce qui te fait rigoler comme ça ? Et je lui montre une petite case où figurait cette inscription. Ici repose Désiré Malcuit, 1873-1921. La fin d'un complexe, fait Robert.
En effet.
Vous voyez qu'il n'était pas le garçon solennel qu'on chercherait à nous faire croire aujourd'hui.
Oui. Seulement, tout d'un coup, vous semblez un peu triste.
Évidemment, on ne peut qu'être triste à l'idée de la façon dont est mort un garçon pour qui la vie était tout et qui était tout pour la vie. Et quand je pense, je suis surtout plein de colère à l'idée de la façon dont il est mort. Parce que ce qu'on n'a pas dit, ce que peu de gens savent, n'est-ce
ça,
pas ?
Ça, en effet, on ne sait pas. Vrai.
Et oui, ce que peu de gens savent, c'est que si Robert n'est pas parmi nous aujourd'hui, c'est dû à la saloperie d'un journaliste de l'époque.
Ah bon ?
Oui, ce jour-là, les journalistes collaborateurs recevaient Monsieur le général von Schaumburg au café de Paris, et ils recevaient aussi un général chef de gare, qui était le général du camp de la mort de Compiègne. C'était d'ailleurs pas un mauvais type, paraît-il, c'était un fonctionnaire qui faisait son travail. Alors ce journaliste lui dit, « Mon général, avez-vous du gratin ? Avez-vous des gens de renom qu'on expédie ces jours-ci ? Quelque chose de bien ?» Le type dit, « Ben mon Dieu, nous avons un professeur de faculté, ça on s'en fiche, » dit l'autre. Nous avons aussi un pharmacien important. Si, il y a un notaire de Saint-Germain-en-Laye. Non, tout ça n'a aucune importance. Mais dans la littérature, dans les arts, vous ne voyez rien. Oh non, si, tenez, nous avons un type, mais je crois que c'est un rigolo, on ne va pas sans doute l'expédier. Ah oui, comment l'appelez-vous ? C'est un nommé Denos, Denos. Comment écrivez-vous ça ? D-E-S-N-O-S. Comment ? Un militant communiste, un danger public ? Ah bon, dit le type qui note ça sur ses tablettes, grâce à quoi Desnos n'est pas revenu. Eh bien, le saligo en question, qui se cache aujourd'hui en Espagne, nous sommes quelques-uns, parmi les amis de Desnos, nous sommes plusieurs, et même parmi les pacifistes, comme Galtier-Boissière ou Janson, qui, si nous le rencontrions, lui botterions les fesses à mort. Voilà ce que je voulais vous dire.
Vous ne pouvez pas dire qui c'est.
Si, c'est M. Alain Lobreau.
Je vous salue, vous qui dormez après le dur travail clandestin. Imprimeur, porteur de bombes, déboulonneur de rails, incendiaire, distributeur de tracts, contrebandier, porteur de messages. Je vous salue, vous tous qui résistez, enfants de 20 ans au sourire de source, vieillards plus chenus que les ponts, hommes robustes, images des saisons, je vous salue au seuil du nouveau matin.
Ami, entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines ? Oh,
condamné qui dort dans un lit trop étroit rêve des grands corbeaux qui survolaient la plaine.
Et c'est affreux.
D'autant plus affreux que malgré sa maigreur, Robert était en parfaite santé. Lorsque, menacé par l'arrivée des troupes alliées, les Allemands décidèrent de le transporter au camp de Fleua en Saxe.
D'où il vous écrivit cette première lettre.
Mon amour, je suis dans le camp de travail de Fleua en Saxe et en bonne santé. Ne t'inquiète pas de voir cette lettre écrite par une autre main que la mienne. Comme tu le vois, nous devons écrire en allemand. Et n'oublie pas de faire rédiger aussi la réponse en allemand. Envoie-moi des paquets, aussi nombreux que tu le pourras, remplis de vivres, de chaussettes, de brosses à dents, de savon, de mouchoirs, de quoi fumer et d'une pipe. Embrasse Lucienne, tante Juliette, tous les amis. Je suis heureux d'avoir une femme comme toi et des amis sur qui je puis compter. T'embrasse de tout cœur.
Du camp de Fleua, en Saxe, les Allemands décidèrent de le transporter au camp de Térésine, en Tchécoslovaquie, près de Prague. C'est donc pratiquement libéré que Desnos contracta le typhus dont il mourut. Reconnu par des êtres qui admiraient son œuvre, l'ayant lu traduite en tchèque, ils ensoleillaient autant qu'ils le purent ces derniers instants. Grâce à eux, sa mort fut signalée, son corps incinéré seul, et ses cendres me furent retransmises par le gouvernement français. Le Comité national des écrivains lui fit des funérailles magnifiques. Il repose maintenant dans le caveau de famille au cimetière Montparnasse.
L'homme, au moment qu'il sent la saveur des cailloux dans sa bouche, habitué à la saveur des lèvres, arrête le voyage au rythme de son pouls, commencé dès les jours de jeunesse et de fièvre.
Mais tout est semblable, et le grain qu'on sème brisera toujours la même surface.
Et son œuvre reste.
Non seulement elle reste, mais elle grandit. Elle s'étend de plus en plus en France et dans le monde entier. Je pense que, comme dans son Fantomas, qu'il écrivit pour la radio, elle allonge son ombre immense sur les villes et sur les toits.
Allongeant son ombre immense, allongeant son ombre immense, sur le monde et sur Paris, quel est ce spectre aux yeux gris qui surgit dans le silence? Fantomas, serait-ce toi qui se dresse sur les toits?
Fantomas, presque un titre de journal que Jean Galtier-Boissière, son ami, aurait pu choisir.
Jean Galtier-Boissière nous exprime son impossibilité de participer à ce rendez-vous des amis de Robert en une lettre pleine d'esprit qu'il termine par ces mots « Regrets éternels ».
Âgé de 100 000 ans, j'aurais encore la force de t'attendre au demain pressenti par l'espoir. Le temps vieillard souffrant de multiples entorses peut gémir. Le matin est neuf, neuf est le soir. Mais depuis trop de mois, nous vivons à la veille. Nous veillons, nous gardons la lumière et le feu. Nous parlons à voix basse et nous tendons l'oreille à maint bruit, vite éteint et perdu comme au jeu. Hors du fond de la nuit, nous témoignons encore de la splendeur du jour et de tous ses présents. Si nous ne dormons pas, c'est pour guetter l'aurore qui prouvera qu'enfin, nous vivons au présent.
Rapport de l'astre et de la terre, rassurant témoignage, aimable compagnon, ombre flexible et jamais solitaire, c'est dans tes plis que nous dormirons.
Le 15 juillet 1944, dans une lettre à Yuki, Robert Desnos désirait que M. Gaston Gallimard sache que dans les 3 mois qui suivraient son tour, il recevrait le manuscrit d'un roman d'amour d'un genre tout nouveau.
Monsieur Gaston Gallimard, pourriez-vous nous dire ce que vous attendiez du roman d'amour d'un genre tout nouveau que vous annonçait Robert Desnos?
Peut-être ai-je mauvaise mémoire, mais je n'ai aucun souvenir de ce roman d'amour que Robert Desnos annonçait. J'étais pourtant son ami et son éditeur, et j'étais très fier de l'être. J'aurais certainement publié ce roman s'il m'était parvenu, comme je publierais aujourd'hui toute œuvre inédite de lui s'il en restait.
Tais-toi, pose la plume et ferme les oreilles. Aux pas lents et pesants qui montent l'escalier.
La nuit déjà pâlit, mais cette aube est pareille à des papillons morts au pied des chandeliers. Une tempête de fantômes sacrifie tes yeux qui les défient aux larmes du désir. Quant au ciel, plus fané qu'une photographie usée par les regards, il n'est qu'un long loisir.
Bonjour la flamme, elle m'étend ses longs gants noirs, et c'est le matin, le feu, l'aube et les ténèbres et l'éclair. Bonjour la flamme. Tu ne me brûles pas, tu me transportes. Et je ne serai plus que cendre. Ô flamme, si tu m'abandonnais.
On frappe aux portes de Paris.
Porte Saint-Martin, porte Saint-Denis, voir briller la lune à travers la voûte. Porte Saint-Martin, porte Saint-Denis, du nord au sud s'allonger la route, du nord au sud suivre le chemin. Porte Saint-Denis, porte Saint-Martin, passez sous la voûte au petit matin. Porte Saint-Martin, porte Saint-Denis, boire un café crème avec ses amis. Porte Saint-Martin, porte Saint-Denis, quand le ciel blanchit au petit matin. Porte Saint-Denis, porte Saint-Martin, dans l'aube noyer ses anciens chagrins. Parti en chantant vers un but lointain, avec nos amis, avec nos copains. Porte Saint-Martin, porte Saint-Denis, par une aube claire, par un beau matin. Porte Saint-Denis, porte Saint-Martin, du nord au sud, suivre le
juillet 1944. Lettre à Yuki.
Cette lettre parviendra-t-elle à temps pour ton anniversaire? J'espère que nos amis ne te laisseront pas seul ce jour. Je les remercie de leur dévouement et de leur courage. J'ai reçu il y a une huitaine de jours un paquet de Jean-Louis Barrault. Embrasse-le ainsi que Madeleine Renaud. Ce paquet me prouve que ma lettre est arrivée.
Jean-Louis Barrault, toujours fidèle à son ami, évoque l'ultime correspondance qu'il échangea avec Robert Desnos.
Quand Robert a été arrêté, nous avons été bien entendu catastrophés, mais il y avait un tel courage chez lui que il dégageait un tel espoir et que nous croyions toujours à son retour. Il s'était débrouillé pour se faire libérer. Et c'est grâce à la haine d'un Français, dont je ne dirai pas le nom, mais que je garde dans mon cœur.
Henri Meunier l'a dit. Bon. Et il l'a dit à la radio très haut pour que tout le monde le sache.
Oui. C'est grâce à la haine d'un Français qu'il a été repris. Et si Robert dégageait pour nous et faisait entrer en nous l'espoir et le courage, ce Français, pour la première fois de ma vie, a fait entrer en moi le sentiment de la haine, et je lui en veux doublement, car c'est un sentiment qui est très désagréable. Et nous croyons au retour de Robert, et dans notre correspondance, c'était toujours une correspondance d'avenir, comme si cette chose que nous étions en train de vivre, et qu'il était en train de vivre pour nous tous, ne devait pas exister
c'était
un jour.
C'était qu'un mauvais rêve.
Oui, ça allait être effacé. C'est vous dire que, pour moi aujourd'hui, Robert Destose représente avant tout une absence. Et à notre époque qui est troublée, où on va quelquefois de l'espoir à l'incertitude, et le bon sens de Robert Desnose, cette espèce de santé morale, cet équilibre extraordinaire qu'il savait conserver, aurait pu à tous nous être extrêmement utile. C'est vous dire à quel point cette absence est importante et regrettable. Vers la libération de la Tchécoslovaquie, j'ai été pris, moi, d'un désir physique d'aller à Prague. Je ne savais pas où Robert était, mais j'ai été pris d'un désir physique d'aller à Prague pour essayer d'aller le chercher, je ne sais pas, vaguement. Et puis, vous savez ce qu'est la vie, j'ai pas pu le faire. Et ce n'est que quelques jours après que j'ai appris qu'il avait...
Le 8 juin 1945.
Oui, qu'il était mort près de Prague. Oui, oui. Mais je crois que le sentiment de l'amitié entre hommes est aussi fort que le sentiment de l'amour. Et j'ai ressenti ça pour deux ou trois personnes dans ma vie.
Quelques privilégiés, ils sont très rares, je crois.
Oui, et... Il y a les mêmes signes, les mêmes effluves entre hommes qui ont le sentiment les uns pour les autres d'amitié que les effluves qu'il y a pour l'amour. Il y a une espèce de dilatation de l'âme, de l'esprit, une espèce de correspondance mystérieuse. Je trouve que enfin, ce qu'on appelle l'âme, et moi je l'emploie avec une façon très sincère ce mot-là, a une puissance illimitée que nous occidentaux nous ne connaissons pas. Et dont on a des aperçus justement au moment des sentiments d'amour, des sentiments d'amitié. Eh bien, pour Robert, j'avais ce sentiment-là, mon âme est veuve.
Madame Madeleine Renaud, je vous être indiscret en vous posant cette question. Pourriez-vous évoquer pour nous votre premier souvenir et à quelle époque remonte le premier souvenir que vous avez de précis de Robert Desnose?
Il est très net. J'ai connu Robert par Jean-Louis, que je venais de connaître. Et lorsqu'il m'a dit « je vais te conduire chez mon meilleur ami », je me demandais quel était ce meilleur ami et qui allais-je connaître. Et Jean-Louis m'a amené un soir rue Mazarine. Je ne jouais pas au théâtre français ce soir-là. Il m'a amené rue Mazarine et j'ai été un peu, moi qui avais été toujours un peu enfermée dans la grande comédie française, un peu effarée, puis... peu à peu émerveillé par l'ambiance qu'il y avait rue Mazarine. On entrait les uns après les autres, en vrac ou en groupe, on s'en allait au bout de 10 minutes, ou on s'en allait au bout de 3 heures, ou quelquefois on passait toute la nuit. Il y avait des amis de tous les genres, de toutes les catégories, des artistes, des bohèmes, des femmes, des hommes, des jeunes gens, des jeunes filles. Il y avait de tout qui arrivait, qui apportait comme leur amitié, leur tendresse, leur bavardage, les échos de tout un monde pour moi absolument inconnu. Et j'avais été émerveillée par la gaieté, la gentillesse, la simplicité de Robert Desnose. Il a voulu absolument me faire goûter la cuisine espagnole de la domestique qu'il avait à ce moment-là. Il était, je crois, 11h ou minuit, on a apporté des crêpes. C'était une bonhomie, un charme et un fou rire, et des fou rires tous ensemble. Et vraiment, c'était les beaux yeux et le grand sourire avec les belles dents extraordinaires de Robert Desnose qui vraiment reste... dans ce premier moment de mon amitié pour lui, comme un souvenir encore tellement vivant.
Je vous écoute et vous entends, Norvégien, Danois, Hollandais, Belge, Tchèque, Polonais, Grec, Luxembourgeois, Albanais, Yougoslave, camarades de lutte, j'entends vos voix et je vous appelle dans ma langue connue de tous, une langue qui n'a qu'un mot, liberté.
Né de la boue jaillie du ciel, plus flottant qu'un nuage, plus dur que le marbre. Né de la joie, jaillit du sommeil, plus flottant qu'une épave, plus dur qu'un cœur. Né de son cœur, jaillit du ciel, plus flottant que le somme, plus dur que le ciel. Né, jaillit, flottant, plus dur et plus ciel, et plus cœur, et plus marbre. Et plus de sommeil, et plus de nuages, et plus d'épave. Et tant et plus, mais du soleil flotte à ton cœur, des marbres dispersés comme des épaves. Au long du ciel d'un pauvre paysage, jaillissant et flottant comme un cœur. Et saignant, oh saignant, saignant tellement que tant de marbres, abandonnés, alignés, dressés comme jaillis, finiront bien par flotter comme des épaves. Mais il ne s'agit plus de flotter, ni de jaillir, ni de durcir, mais de toute boue faire un ciment, un marbre, un ciel, un nuage, une joie, et une épave et un cœur. Cela va de soi. Et tout ce qui est dit plus haut, et un sommeil, un beau sommeil, un bon sommeil, tel qu'enfin s'épanouissent, recouvrant l'univers, un bouquet, un immense bouquet de roses rouges.
Écoutez-nous à votre tour, marins, pilotes, soldats, nous vous donnons le bonjour. Nous ne vous parlons pas de nos souffrances, mais de notre espoir. Au seuil du prochain matin, nous vous donnons le bonjour, à vous qui êtes proches, et aussi à vous qui recevez notre vœu du matin. Au moment où le crépuscule en bottes de paille entrera dans vos maisons, et bonjour quand même, et bonjour pour demain.
Je renais, baigné de lumière. Je renais vivant sur la terre plus féconde et plus prospère. Mon ombre n'appartient pas au soleil. Et la nuit, pendant mon sommeil, mon ombre est là sur moi qui veille. Lasse de suivre les contours de mon corps pendant le jour et de traîner sur terre toujours. Mon ombre enfant sort des limites. Mon ombre enfin sort de son gîte et va où son désir l'invite. Mon ombre se confond avec la nuit, avec le charbon et la suie, et fume parce que je vis. Mon ombre envahit la moitié du monde et flotte avec les vents et les ondes, avec les fleuves et la mer qui gronde.
Éteignez tous les feux et dispersez la cendre. Le jour est bon à vivre et l'heure est bonne à prendre.
À ciel perdu. Cette émission de Jean Marcelot et Suzanne Robin était donnée en hommage à Robert Desnos, avec les témoignages de Yuki Desnos, Roland Gaget, Henri Janson, Pierre Havard, Gaston Gallimard, Henri Monnier, Jean-Louis Barrault, Madeleine Renaud, les voix de Robert Desnos et Charles Trenet, et la participation de Jean Arnaud, Marie-Nicole, Alain Chaudier, Lise Langeais, Didier Boël. Les portes de Robert Desnos, mises en musique par Paulette Zevaco, ont été chantées en première audition par Guy Revaldi, accompagné par Jimmy Walter. Réalisation Guy Delaunay. C'était une soirée de Paris.
Cette émission a été diffusée pour la première fois le 14 décembre 1958. Vous pouvez la réécouter pendant 1000 jours et la télécharger pendant un an sur le site franceculture.fr.